Il est 11h28 à Kinshasa, midi 28 à Goma, où nous nous rendons immédiatement en espérant que cette fois-ci, le son sera avec nous. On prend deux questions à Goma. Merci.
Il n'y a pas de questions à Goma.
Alors, nous allons, s'il n'y a pas de questions à Goma, nous revenons ici à Kinshasa, où on va prendre une question ici sur la gauche. Madame.
Jeanne Moloaï du magazine Actu 30. La MONUSCO a participé à la réunion conjointe entre l'armée congolaise et celle du Rwanda, de la Tanzanie et de l'Ouganda pour mettre fin à l'insécurité à l'est du pays. Au niveau de la MONUSCO, comment vous jugez cette mutualisation de forces à l'est pour mettre à pied les rebelles à l'est?
Merci. Je crois qu'on a eu l'occasion de s'exprimer à plusieurs reprises à ce sujet. En tant que partenaire des FRDC, la MONUSCO a été effectivement invitée à participer à la réunion qui s'est tenue la semaine dernière, tout comme elle l'avait été pour la réunion de septembre. Mais nous l'avons dit à plusieurs reprises, notre mandat est de soutenir les FRDC. C'est un mandat national à une armée nationale et cela n'inclut pas donc de soutien à une coalition régionale. Donc notre position est de dire que si nous devions être impliqués, la décision devrait revenir au Conseil de sécurité. La représentante spéciale du secrétaire général, Mme Leïla Zerougui, a eu l'occasion aussi, il y a quelques jours, de s'exprimer à ce sujet. Et elle a rappelé sa position, qui est la suivante. Selon elle, la meilleure façon de lutter contre les groupes armés, ce n'est pas de déclencher une guerre, mais de s'attaquer aux causes profondes du conflit, les comprendre et les résoudre. Nous allons maintenant retourner sur le terrain et nous allons à Bukavu.
Merci. Je m'appelle Honoré José Moussole, je suis journaliste de la radio Nord-Oxyme à Bukavu. Ma première question concerne la MONUSCO. On nous avait dit qu'il y aurait plusieurs radios drones de la MONUSCO qui vont circuler dans la province du site qui vous vient dans les territoires où la MONUSCO mène ses activités. On ne sait pas où recueillir effectivement les informations des FDLR ou bien des groupes armés. On ne sait pas est-ce que ces avions existent, les drones, et quelles sont les informations qui les soutiennent auprès des groupes armés. Merci.
Alors, je réponds au fur et à mesure dans la mesure où nous sommes retransmis sur Radio Capi, on reste dans la logique une question une réponse. Ma réponse, vous le savez, vous faites allusion au drone, donc c'est du recueil de renseignements et vous comprendrez que nous restions plutôt discrets sur les opérations que nous menons dans ce domaine. Voilà, donc deuxième question.
Merci, moi c'est Denis Magal, je suis journaliste à la radio Cameroun. Juste c'est pour savoir la position de la MONUSCO face aux groupes armés de la province du Sud Kivu, plus précisément à Minembwe.
Alors je vais commencer à répondre. Aziz, mon complétera, tout comme le porte-parole militaire. Donc, effectivement, comme vous, nous sommes préoccupés par la situation actuelle dans la région des hauts plateaux du sud Kivu. Parce que cette situation a de terribles répercussions sur les populations locales qui, elles, n'aspirent qu'à suivre le cours normal de leur vie. Et au lieu de cela, des personnes sont tuées, blessées ou enlevées, des maisons sont incendiées tous les jours, des embuscades sont tendues, des têtes de bétail sont volées, ce qui entraîne de grands déplacements de population et ça déstabilise l'économie. Alors la semaine dernière, nous avons recensé au moins 10 incidents, mais je sais qu'il y en a eu de nombreux supplémentaires depuis le week-end. Alors éviter une crise majeure est actuellement la priorité de la MONUSCO et nous agissons au niveau local, provincial et national. Sur le terrain, nous faisons tout ce qu'il est possible de faire afin de pouvoir soutenir les FRDC. Nous adaptons notre présence en permanence afin de répondre au mieux aux besoins de protection des populations. Nous avons des bases temporaires militaires qui sont déployées, qui ferment, d'autres qui ouvrent. Nous en avons deux en prévision, l'une à Bijombo et l'autre à Kamo je ne vais pas y arriver, Kamombo, afin d'être au plus proche des populations, notamment les personnes déplacées. Le 7 septembre, nous avions des troupes supplémentaires qui avaient été déployées pour protéger l'aéroport de Minembwe. Mais il ne faut pas perdre de vue que nous opérons dans un environnement naturel qui est difficile. Il n'y a pas de route, il y a l'altitude et cela limite la possibilité de patrouille, mais aussi la possibilité de vol de nos hélicoptères. Toutefois, chaque fois que la MONUSCO est informée à temps sur une menace, des dispositions sont prises. Il y a l'exemple très récent de Bijombo en début de semaine où le chef de bureau était informé de la menace. Il a été en contact avec les autorités locales et les FRDC pour identifier un endroit possible d'insertion des troupes quand l'attaque s'est produite. Donc, une fois encore, nous allons réitérer le besoin d'avoir l'information qui nous est transmise pour pouvoir mieux protéger les populations. Ça, c'est ce qui se passe au niveau local et provincial. Il y a aussi les bons offices de la représentante spéciale, du secrétaire général, de ses adjoints, du chef du bureau de Bukavu, du directeur du bureau des droits de l'homme, afin de soutenir les autorités nationales et provinciales pour renforcer les fonctions régaliennes de l'État dans cette zone et promouvoir un dialogue entre les communautés. Et vous me demandiez quelle était la position de la MONUSCO. Nous, ce que notre souhait, on n'a pas à se positionner, on souhaite que tout le conflit ne s'envenime pas, mais on souhaite surtout que les communautés vivent ensemble, soient rassurées par une présence de l'État à travers ses fonctions régaliennes. Voilà ce que je pouvais, de mon côté, dire sur Minembwe. Je vais demander au porte-parole militaire s'il a un complément, et ensuite Aziz terminera. Lieutenant-colonel, est-ce que vous avez quelque chose à rajouter par rapport à Minembwe et les hauts plateaux?
Merci. Quelque chose à rajouter par rapport à Minembwe. La solution à Minembwe n'est pas exclusivement militaire. Il est important que le dialogue soit fait entre toutes les communautés et ça se passe au niveau du gouvernement national, du gouvernement provincial et au niveau local. La MONUSCO, la force de la MONUSCO est disposée à appuyer les FRDC dans tout ce qu'elles vont entreprendre, mais la solution n'est pas que militaire. Voilà tout ce que je peux dire par rapport à la situation à Minembwe. Je vous remercie.
Merci. Ça correspond vraiment à l'approche globale menée par la MONUSCO actuellement, à la fois par nos personnels militaires et civils, dont les officiers des droits de l'homme qui dépendent du bureau d'Aziz.
Tout à fait. Merci Florence. La situation à Minembwe est extrêmement préoccupante. Et je voudrais juste rappeler ici que depuis mars 2019, la situation s'est sensiblement détériorée. On a connu une recrudescence des violences depuis octobre. Et à ce jour, je peux vous dire que depuis mars 2019, nous avons documenté 73 villages qui ont été brûlés. Par à la fois les Maïmaï, les différents groupes Maïmaï, y compris les Goumino et les Tuganeho. Donc, pour dire que la situation est très critique et nécessite aujourd'hui une approche globale. Je suis d'accord effectivement que la solution n'est pas que militaire, mais pour l'heure, il est important de forcer ces groupes à désarmer. Il est important. Il est important de s'assurer que les plateaux, les hauts plateaux de Itombwe et de Minembwe deviennent des zones où aucun civil ne peut être autorisé à porter des armes. C'est la seule solution pour s'assurer de l'intégrité physique et préserver la vie des populations civiles qui vivent dans ces zones-là. Ce qui se passe n'est pas acceptable. À cela s'ajoute tout le discours de haine qui entoure le conflit qui a cours dans ces zones-là et l'incitation à la haine et à la violence, qui, je devrais le rappeler ici, sont constitutifs de crimes internationaux. Il faudrait que les auteurs en soient conscients. Quel que soit leur rang, quel que soit leur statut, ils se rendent bien compte qu'en réalité, ils peuvent faire l'objet de poursuites. Nous sommes en train de documenter l'essentiel de la situation, toutes les violations des droits de l'homme et abus qui sont en train de se commettre dans ces zones-là. Et nous sommes en mesure aujourd'hui de produire un rapport exhaustif sur ce qui s'est véritablement passé. Et ce que nous disons aux uns et aux autres, c'est un appel au dialogue, c'est un appel au calme, c'est un appel à déposer les armes et s'assurer effectivement que la sécurité puisse être assurée par les FRDC dans des conditions de confiance avec le soutien de la MONUSCO. C'est ce que je peux dire pour l'instant.
Merci. Nous revenons ici à Kinshasa avec une question ici sur ma droite. Mikael.
Oui, merci Florence. Nikez Omouzani, africeco.ch. Ma question s'adresse à M. Abdelaziz Thioye. Vous avez souligné tout à l'heure que dans les informations du Bureau conjoint des Nations Unies, vous avez documenté 49% de violations commises par les agents étatiques. J'aimerais mieux comprendre, est-ce que c'est beaucoup plus la police, le FARDC qui sont à la base ou c'est quelle autre composante des agents étatiques?
Merci Likes. Ce sont les FARDC, encore une fois. J'ai dit 49% attribués aux agents de l'État. Et j'ai oublié de dire que les FARDC, en tant que groupe, on leur avait attribué 22% des violations. Si vous prenez l'ensemble des parties auxquelles sont attribuées les violations et les atteintes que nous avons documentées, les FARDC en ont commis 22%. Donc, les FARDC en ont commis beaucoup plus que la PNC comme agent de l'État cette fois-ci. Merci.
Nous nous rendons à Bounia pour prendre deux questions, s'il vous plaît. Bonjour Bounia.
Bonjour Kinshasa, bonjour Florence, Aziz, et bonjour aux auditeurs et auditrices de Radio Capi. Nous allons commencer par une question qui vous est posée par Christine Abedito.
Oui, voilà, je suis Christine Abedito, je suis journaliste à la radio télévision Montblanc et aussi la présidente intérim de l'UNPC. Nous sommes à Ndjougou. Nous sommes fiers de voir les Tiobi, Vincorani, Opération Baz, MONUSCO, dans certaines localités Jiba, Ro, Pimbo, Loda, Ndjougou, afin de persuader bien sûr les opérations des assaillants contre les civils. Ces Tiobi ne sont pas installés dans la partie littorale où ces jours-ci, les assaillants sont actifs contre les civils. Alors, ma question est de savoir que pense la MONUSCO afin de voir comment installer Tiobi aussi au niveau de la partie littorale.
Je crois qu'il y a une réponse dans l'actualité toute récente, puisque hier, dans le cadre du soutien que la MONUSCO apporte à toutes les initiatives de paix en Ituri, nous avons facilité une réunion entre les FRDC et la communauté Lendu, justement pour voir comment on pouvait ensemble, comment les FRDC et les communautés pouvaient ensemble trouver des mécanismes pour venir à bout de l'insécurité dans les localités situées sur les rives du lac Edward. Donc voilà, tout est pris en compte et effectivement nous continuons à soutenir toutes les initiatives en faveur de la paix et la réconciliation dans le territoire de Djougou. La deuxième question à Bounia, s'il vous plaît.
Merci, c'est Joska Kanyinda, journal de Nyenère, Radio Merveille Bounia. Le territoire de Djougou connaît des affres depuis fin 2017. On a enregistré plusieurs déplacés, mais jusqu'à ce jour, les chiffres n'est pas tellement connus. Quand on parle de 360 000, 800 000 ou 1 million, nous ne savons pas combien, quels chiffres la MONUSCO peut nous donner aujourd'hui, des déplacés internes et externes, et qu'envisagent les Nations Unies pour assurer des retours dans leurs milieux respectifs de ces déplacés et de placer internes et réfugiés.
Alors, je vous remercie pour votre question. Malheureusement, vous le savez, les Nations Unies, nous ici au Congo, il y a la mission, et puis il y a les agences, les fonds et les programmes, et les déplacés sont couverts par nos collègues humanitaires qui malheureusement aujourd'hui n'ont pas pu se joindre à cette conférence de presse. Donc on va garder la question, et puis à la prochaine conférence de presse, on va leur demander de vous faire un petit exposé sur la situation des déplacés et des mesures d'accompagnement pour leur retour dans la province de l'Ituri. C'est bien noté, on va le faire. Donc du coup, Bounia, si vous avez une troisième question, on peut prendre une autre question pour compenser celle-ci à laquelle je n'ai pas pu répondre.
Voilà, moi c'est Serge Carba, journaliste à la radio-télévision nationale congolaise Ituri.
Lors de la dernière réunion sur la FRPI tenue à Kinshasa, le 24 octobre dernier, réunion présidée par le Premier ministre congolais, on a entendu comme des sons de cloche entre la MONUSCO et le gouvernement congolais. Madame Zerubi a dit catégoriquement que pour la MONUSCO, il était hors de question que ceux qui ont tué, pillé et violé soient parmi ceux censés assurer la protection des Congolais. Comment aplanir ce qui apparaît comme une divergence?
Alors écoutez, moi, comme vous le savez, je suis dans le bureau de la représentante spéciale et lorsqu'elle est rentrée de cette réunion, c'est pas du tout ce qu'elle m'a dit. Ce n'est pas non plus du tout la perception que les personnes qui l'avaient accompagnée ont eue. C'était donc dans le cadre du comité de pilotage du STAREC sous la présidence du Premier ministre pour montrer l'importance qui est donnée à ce processus en cours, parce que si ce processus fonctionne avec les FRPI, ça va créer un précédent positif pour le reste du pays. Donc il s'agit vraiment de donner le bon exemple. Et donc nous sommes partenaires des autorités congolaises et la représentante spéciale a rappelé, et c'est un sujet, comme vous le savez, qui lui tient à cœur, les principes que vous avez énoncés, mais surtout qu'il fallait procéder à la libération immédiate des enfants pour pouvoir continuer le processus. Mais il me semble qu'il y avait une véritable convergence de vues sur la suite, puisqu'une date a même été avancée pour la signature de l'accord de paix d'ici à la fin du mois de novembre. Donc, franchement, c'est le retour que nous avons eu ici et celui de deux partenaires qui regardent dans la même direction, celui d'aboutir, d'avoir la paix et de surtout de créer un exemple pour pouvoir ensuite le répliquer à d'autres groupes armés qui sont en train de désarmer aujourd'hui sur l'étendue des territoires. Voilà, nous revenons ici à Kinshasa avec une question ici sur la gauche pour monsieur.
Merci madame. À mon avis, la situation, un petit remail de l'Agence congolaise de presse, à mon avis la situation à Minembwe est explosive et même dangereuse. Vous nous avez toujours enseigné que dans de tels conflits, il faut toujours chercher les causes profondes. Et d'après vous, quelles sont ces causes? Quelles sont les causes profondes? Parce qu'après tout, il s'agit d'une situation malheureuse entre les Banyamulenge et les Bantous, à mon avis. Quelles sont les causes profondes de cette situation qui explose aujourd'hui?
Alors, une fois encore, je vais reprendre des propos tenus récemment par la représentante spéciale en disant qu'elle, à ses yeux, le conflit est surtout un conflit d'origine économique, le problème de l'accès à la terre dans cette région.
Et la gestion de la transhumance, on sait, c'est dire réduire tout ce groupe, tout le conflit en conflit entre Banyamulenge et Bantou me semble assez réducteur. Parce que je crois qu'il faut qu'on fasse un peu attention. Parce qu'il y a un glissement assez dangereux que nous avons constaté depuis quelque temps qui tourne autour de l'identité et de l'appartenance nationale. Il nous faut faire très très attention. C'est la direction justement vers laquelle il ne faut pas aller. Il y a un conflit qui tourne autour de la gestion de la transhumance et l'utilisation des terres. Évidemment, chaque communauté a cru bon de créer des milices d'autodéfense pour défendre ses intérêts. Dans un État, dans un pays organisé, ceci n'est pas acceptable. Il revient à la force publique de garantir la sécurité des personnes et de leurs biens. Il n'appartient à aucune communauté de créer sa propre milice pour s'assurer de sa protection. Ça ne doit pas se passer comme ça. C'est pour ça que nous disons qu'il est important de privilégier le dialogue et de chercher une solution globale. Continuer les discussions. Il y a eu des discussions autour de la gestion de la transhumance et de l'utilisation des terres dans le passé. Mais à chaque fois, on revient un peu, on reprend tout à zéro, on se retrouve avec ce cycle de violence. Il nous faut couper avec tout ça. Et pour couper avec tout ça, il faut réellement discuter des véritables problèmes et essayer de trouver des solutions. La solution armée n'est pas du tout la bonne solution.
Nous prenons une question ici sur la droite, monsieur.
Roger Marley Ilukunga pour Elima News. Avoir de près, M. Aziz Thioy, les statistiques de violation des droits de l'homme placent les agents étatiques en place de choix. Et ainsi la PNC et le FARDC s'y illustrent grandement, consécutivement.
C'est le contraire, cette fois-ci.
Le FARDC et le PNC.
C'est le contraire. Ce sont les groupes armés qui sont en tête, c'est ce que j'ai dit.
Bon, mais généralement, ce sont les FARDC.
Ça, c'est vous qui l'avez dit, je n'ai pas dit.
Voilà. Consécutivement, cela, n'avez-vous pas une alternative forte, c'est-à-dire une initiative très forte de sensibilisation des concernés afin qu'ils se conscientisent à cesser volontairement ces actes rébarbatifs?
D'abord, permettez-moi de rectifier. J'ai dit 51% des violations attribuées aux groupes armés. J'ai bien précisé que l'augmentation est due aux atteintes aux droits de l'homme attribuées aux groupes armés. Et j'ai bien mentionné les Maïmaï Nyatura. C'est ce que j'ai dit. L'activisme des groupes armés, évidemment, la proportion des violations attribuées aux agents de l'État reste très élevée. Ça, je l'ai dit aussi. Mais on est dans des dispositions plus ou moins, dans des tendances un peu plus basses que ce qu'on avait l'habitude de connaître. Ça veut dire qu'il faut poursuivre les efforts tendant davantage à travailler, à professionnaliser, prévenir la commission de violation des droits de l'homme par les FARDC et la PNC. Il y a des efforts qui sont en cours. Il s'agit davantage de travailler sur les circuits d'approvisionnement, la paye des soldats, et davantage travailler à les renforcer leurs capacités, les former sur le respect des droits de l'homme. Tout ça est en train d'être fait. Nous le faisons en appui à l'état-major FARDC. Il y a des efforts qui sont en cours. On n'est pas encore à un niveau où nous pouvons dire que la situation est devenue normale, mais la tendance, elle est pas bonne, je devrais dire, mais elle n'est pas non plus très très mauvaise. Disons qu'il y a des progrès qu'il faut essayer de consolider pour aller de l'avant. Merci.
Sonia.
Sonia Rollet de RFI. Vous avez dit, enfin, le porte-parole militaire a dit que les déplacements étaient le résultat de conflits entre les groupes armés. Est-ce que ça veut dire qu'il y a des attaques contre les civils directement, ou est-ce que c'est vraiment que le résultat des déplacements de population de ces conflits donc entre groupes armés? Et vous n'abordez pas non plus le rôle des groupes armés étrangers. Est-ce que ça veut dire que pour vous ça n'a aucun rôle? Et qu'est-ce qui se passe à Bijombo? Est-ce que vous avez des informations là-dessus?
Je crois que pour Bijombo, j'ai déjà répondu en disant qu'on était en train de... qu'effectivement la situation s'était détériorée le 28 et le 29 octobre. Il y a 3 personnes qui, d'après nos informations, ont été tuées suite à une embuscade. Et qu'on est en train pour pouvoir justement répondre aux besoins de protection des populations civiles, on est en train de déployer une base temporaire à Bijombo. Donc voilà. Concernant la partie militaire, porte-parole militaire, lieutenant-colonel, est-ce que vous avez un complément à apporter pour Sonia Rollet de RFI?
Il n'en a pas. Je vais dire juste.
Ok. Alors, donc Aziz.
Voilà. Non, il y a, il est vrai, des attaques délibérées contre les civils de la part des différents groupes Maïmaï qui agissent, soi-disant au nom de leur communauté, qui essaient de défendre leur communauté. À Bijombo, la situation, effectivement, elle est critique. Il y a eu des villages qui ont été incendiés hier à Bijombo. Donc, ça, nous le savons. Il y a également une embuscade qui a été tendue, comme elle l'a dit, sur un car de transport et des individus qui y étaient. Mais on sait à peu près le nombre de victimes qui ont été occasionnées par cette attaque. Ce qu'il faut dire, effectivement, les incendies de villages ont entraîné des déplacements de population. Cela va de soi parce qu'on ne peut pas dire en quelque sorte qu'il s'agit d'un déplacement forcé, mais ces populations n'ont d'autre choix que de se déplacer parce qu'elles sont l'objet d'attaques de la part à la fois des Maïmaï proches des communautés Bafoulérou, Bayundi, Bachi ou Babembe, ainsi que des Gouminos, les Gouminos et les Tuéganeo. Toutes les communautés, toutes les milices sont auteurs d'attaques contre les villages. Plusieurs villages ont fait l'objet d'incendies à plusieurs reprises de la part de ces milices et de ces groupes armés. Les groupes armés étrangers semblent ont évidemment jouent un rôle dans cette situation parce qu'elles sont en alliance avec quelques ou bénéficient de la complicité de certains de ces groupes. On le sait, nous essayons nous continuons à documenter la situation, mais pour l'heure, nous n'avons pas de tendances confirmées sur le niveau d'implication de ces groupes armés étrangers sur la situation ou dans concernant les atteintes que nous avons documentées dans les plateaux de Minembwe et également d'Itombwe.
Bukavu, est-ce que Goma ayant décidé de passer son tour, est-ce que vous auriez une question supplémentaire à nous poser?
Bon, toujours, c'est José Moussol et de la radio de Moussi. Moi, je voudrais aussi, vous avez dit que la MONUSCO ne vient pas en appui aux forces étrangères, mais la RDC a décidé de recourir à la force étrangère pour neutraliser les groupes armés. Pour vous, la MONUSCO, est-ce que ce n'est pas une faiblesse, étant donné que vous venez en appui à la force de la RDC? Merci.
Je crois que j'ai déjà plus ou moins répondu à cette question. Déjà, je pense que rien n'a encore été décidé concernant la coalition régionale, d'une part. Et d'autre part, non, ce n'est pas une faiblesse. Nous avons un mandat national. Le mandat qui nous est donné par le Conseil de sécurité est un mandat qui couvre la République démocratique du Congo. Nous revenons ici à Kinshasa avec une question tout au fond, Laetitia.
RTNC2 Développement, Laetitia Massela. Je pose ma question à l'homme du droit de l'homme. J'ai une petite préoccupation. Je peux souvent s'en excuser, moi. Le bureau conjoint du droit de l'homme organise depuis ce 28 octobre 2019 un séminaire gouvernemental de 3 jours sur le développement selon l'approche basée sur le droit de l'homme avec l'appui du gouvernement suédois, norvégien et néerlandais. Vous avez organisé tant de séminaires. Cette fois-ci, quel est l'objectif phare?
Alors, je veux rappeler que l'homme des droits de l'homme s'appelle Aziz Tchoy et qu'il est directeur du bureau conjoint des Nations Unies aux droits de l'homme.
Merci, Aziz.
Merci, Laetitia, de ne pas te souvenir de mon nom. C'est très, très gentil. Merci beaucoup de poser cette question. Il est vrai que nous organisons depuis l'avènement du nouveau gouvernement une série de formations destinées au renforcement des capacités en termes de programmation basée sur les droits de l'homme. Il s'agit beaucoup plus, la formation dont vous parlez concerne le gouvernement provincial de l'Ituri. Nous sommes en train de faire une formation en vue réellement de les permettre de procéder à une planification basée sur les droits ainsi qu'un processus de budgétisation basé sur les droits de l'homme. C'est un processus que nous avons déjà commencé ici à Kinshasa avec la société civile. Nous travaillons également avec certains ministères et nous allons monter en puissance. L'idée, c'est de répliquer ces formations pratiquement dans toutes les provinces, parce que évidemment, il nous faut aller dans le sens de la promotion en vue de la réalisation de ce que nous appelons les droits économiques, sociaux et culturels. C'est-à-dire améliorer le bien-être, l'accès à l'eau, à la santé, à l'emploi, à l'assainissement, également le droit à un environnement sain, ainsi que d'autres droits qui relèvent de cette catégorie-là. Merci.
On va prendre une dernière question ici à Kinshasa. Oui, monsieur. On a 2 minutes, donc 30 secondes.
Oui, merci Florence. C'est Venant vous dit ça pour la RTNC. C'est une préoccupation à laquelle vous avez déjà répondu à 2-3 reprises. Revenant sur la question de notre conseiller Molowai, sur l'opportunité ou l'inopportunité d'une armée intégrée. parce que la position de Mme Leïla, je pense qu'elle est quelque peu ambiguë, on n'a pas retenu grand-chose. Mais que dit le Conseil de sécurité qui vous mandate pour certaines actions par rapport à l'opportunité d'une armée intégrée pour combattre les groupes armés en RD Congo?
Le Conseil de sécurité, il nous donne une résolution qui est actuellement la 2463, qui est notre mandat. Et donc la réponse est dans le mandat. Pour l'instant, notre mandat est de soutenir les FRDC et ça n'inclut absolument pas le soutien à une coalition régionale. Et si le Conseil de sécurité souhaite modifier notre mandat, il en aura la possibilité puisque, comme vous le savez, le 20 décembre, la mission aura un nouveau mandat. Donc le Conseil de sécurité n'a pas changé sa position jusqu'à présent. Ils suivent l'actualité de la RDC. Le pays est souvent à l'ordre du jour des discussions à la fois publiques et à huis clos du Conseil de sécurité. Mais pour l'instant, rien n'a changé. Notre feuille de route reste la résolution 2463 qui exclut donc tout soutien de la MONUSCO à une coalition régionale. Voilà. Donc, la position de la représentante spéciale n'est absolument pas ambiguë. C'est juste de dire, voilà, moi, je dirige une mission qui a un mandat qui est le suivant et nous ne faisons que mettre en œuvre ce mandat. Et elle ajoute que, selon elle, de toute façon, la solution armée n'est pas la solution, mais que la solution, c'est de s'attaquer aux causes profondes du conflit. Voilà, je vous remercie. Merci à tous. On se retrouve dans 2 semaines. À bientôt.
Radio Capi. Oh, Capi.